Alors, bienvenue à Intelligence sportive, la perspective canadienne, un balado présenté par le Centre de documentation pour le sport au Canada, mieux connu sous le nom du CERC. Je suis votre animatrice Kim Girdler et aujourd'hui, nous plongeons dans la recherche sur ce qui stimule la participation au sport au Canada et ce qui motive les Canadiennes et Canadiens à faire du sport et surtout à rester actifs. L'année dernière, nous avons été nombreux à suivre les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Pour la première fois, il y avait autant de femmes que d'hommes en compétition. Nous avons fait beaucoup de chemin depuis le temps où les filles et les femmes étaient activement découragées, même voire interdites de participer à la plupart des sports. Mais même aujourd'hui, elles restent moins nombreuses que les garçons et les hommes à participer, que ce soit comme athlètes, entraîneurs, officiels ou même dans les postes de leadership sportif. Alors, dans cet épisode, on s'intéresse de plus près à l'égalité entre les genres dans le sport canadien. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Dr. Guylaine Demers, une experte, chercheuse et défenseur de l'équité entre les genres dans le sport au Québec et au Canada. Professeure à l'Université Laval, elle mène depuis longtemps des recherches sur la place des femmes dans le sport. Elle est aussi membre du groupe de travail sur l'inclusion dans le sport du Comité olympique et elle vient tout juste d'être intronisée à l'Ordre du sport canadien. Guylaine, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir, Kim.
Tu parles d'une introduction. Hey, à part de ça, à l'intronisation à l'Ordre du sport canadien, quel honneur!
Ouais, celle-là était pas attendue du tout là, surtout dans la catégorie bâtisseur, parce que comme je dis, c'est pas ironique, mais vraiment habituellement les gens qui gagnent cette catégorie-là sont quand même beaucoup plus âgés que moi, et puis là, ben ça te permet de prendre un peu un pas de recul, puis de ben entre autres quand j'ai des présentations comme la tienne, tu dis ben ouais finalement c'est vrai j'en ai fait un peu là, c'était vraiment un bel hommage et ça m'a vraiment beaucoup touché, puis ça, écoute, je pensais pas, j'ai reçu tellement de messages. C'était un tsunami de messages. Oh. Je pensais pas que ça aurait eu cet impact-là, vraiment, là.
Bien là, j'ai toute une série de questions à te poser parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, puis comme tu le sais, tu n'as fait beaucoup, tu as un gros impact sur le sport au Canada quand ça vient à l'équité des genres. Alors, j'ai plusieurs questions pour toi, Guylaine, puis je suis vraiment excitée pour notre conversation. Alors, premièrement, tu baignes dans le monde du sport québécois et canadien depuis longtemps, de joueuse à entraîneur au basketball de haut niveau, à experte des questions d'équité des genres dans le sport. Alors, qu'est-ce qui te motive à faire la recherche et de défendre cette cause?
Bien, en fait, c'est sûr que je te dirais que la plupart des chercheuses féministes, ça part souvent d'une histoire personnelle. Alors, je viens d'avoir 61 ans. C'est sûr, moi, quand j'étais ticu, je voulais jouer au hockey, mais il y avait zéro option. Là, c'est mes frères qui ont joué au hockey, mais pas moi. Donc, déjà très, très tôt, je te dirais, dès l'âge de 6-7 ans, j'ai compris que c'était un handicap être une fille quand tu voulais faire du sport. Et j'étais allergique à la couleur rose, parce que pour moi, ça voulait dire que j'étais une fille. Donc, il y a plein d'affaires que je pourrais pas faire. Alors, c'est sûr que ça m'a habité très tôt. Puis, à certains égards, des fois, de la frustration là, de dire comment ça fait que mes frères peuvent, puis pas moi. Puis, c'était pas mes parents. Tu sais, dans le fond, à Noël, je demandais des pattes de hockey, puis j'avais des pattes de hockey. Tu sais, mes parents, pour eux, c'était pas un problème que je... Tu sais, je demandais juste de l'équipement de sport à Noël. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est juste ça que je voulais. Donc, du côté de la famille, c'était pas un enjeu, mais dans le système, il y avait pas très peu de structure. Je faisais de l'éducation physique à l'école, puis encore là, je trouvais ça plate parce que j'étais plus forte que beaucoup de filles, puis beaucoup de gars aussi, on va le dire. Et quand c'était ségrégué, ben, tu sais, là, je voyais les gars qui faisaient du football, puis nous autres, les filles, il fallait faire de la gymnastique, je naissais en connaissance. Tu sais, je pense que cette historique-là m'a habité tout le long de ma vie et qui fait que plus vieille, quand je suis devenue entraîneur, bon, j'ai été athlète, bon, là, j'ai eu l'opportunité de jouer jusqu'au niveau universitaire.
Guylaine, peux-tu nous parler un peu plus de ton expérience en tant que coach?
Pendant mes années collégiales, je suis devenue entraîneur. Puis, au début, j'étais vraiment la seule femme qui coachait, là. Tu sais, avec que des gars autour de moi, là. Quand je suis arrivée au niveau collégial, ben c'était encore plus frappant. Je suis lesbienne, là, maintenant, c'est quelque chose qui est public, là. Mais d'ailleurs, ça dérange plus les gens que je sois féministe que je sois lesbienne. Mais, et tu vois, à ce moment-là, quand je suis devenue entraîneur, je me dis, mais comment ça se fait, tu sais, qu'il n'y a pas plus de femmes que ça? Moi, je suis tellement passionnée du sport, tu sais, c'était comme tous les postes de sport m'intéressaient. Et quand je coachais collégial, on avait beaucoup de succès avec mon équipe, ça allait vraiment bien. Et là, j'ai commencé à vivre de l'homophobie de la part des entraîneurs masculins. Tu sais, le negative recruiting qu'on dit en anglais, donc des coachs qui allaient voir mes athlètes ou les filles que j'avais recrutées en disant, va pas jouer pour Guylaine Demers, c'est une lesbienne. Tu vois, là, à ce moment-là, j'étais dans mes études de doctorat et aussitôt que j'ai eu un poste universitaire, les premiers projets que j'ai faits, c'était avec les coachs féminins. J'étais là, il n'y en a pas. Puis quand il y en a, il y a toujours, si tu n'es pas explicitement hétéro, c'est comme tout le monde assume tes homosexuel, avec tout ce que ça vient comme homophobie autour. Alors, ça a été vraiment mon histoire qui a forgé, en fait, qui je suis devenue comme athlète, comme coach, et même comme j'ai été directrice de la Fédération de basketball du Québec, pas longtemps, parce que j'avais rien que 25 ans. Non, c'était wow. J'étais la première femme à occuper ce poste-là. Puis, tu sais, direction technique, c'est le deuxième plus gros poste d'une fédé. Là. C'est toi qui gères le sport dans ta province.
À 25 ans, Guylaine?
Oui.
Wow!
Pour moi, c'est le dream job. Là. Écoute, là, vivre de mon sport à l'année, manger du basket 12 mois par année. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les gens avec qui je travaillais, mais l'environnement de travail était très, très, très sexiste et misogyne. J'étais pas considérée pour mes compétences puis pour le poste que j'occupais, mais c'était, on me faisait compter des T-shirts, puis en fait, c'était vraiment... j'ai été là 9 mois, puis ciao, bye. J'ai dit non, c'est pas vrai. Là, j'ai décidé de terminer mon doctorat. Et tu vois, je fais beaucoup confiance à la vie. Finalement, c'est une bonne chose que ça se soit mal tourné. Ça m'a beaucoup influencé. Ma recherche, tu vois, ça a touché les coachs, l'homophobie, les femmes en gestion, en administration, parce que ça s'améliore, mais on a encore des défis, là. Mais clairement, ce que je fais, puis ce qui fait que je continue, c'est ma passion pour le sport. Et aussi, je sais à quel point le sport peut être fantastique dans la vie d'une personne. Il peut être, bon, il y a des côtés, on le sait, il y a des côtés négatifs, là, le côté sombre du sport, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de côtés positifs. Et pour moi, il faut que tout le monde puisse avoir l'opportunité de profiter puis de vivre ce plaisir-là. Ça peut être tellement une passion pour la vie, là. C'est clairement là.
Moi aussi, je réalise qu'il y a des parties sombres, comme tu dis, dans le sport, mais en général, le sport, c'est fantastique pour tout le monde. C'est le fun. C'est le fun de jouer à un sport, faire partie d'une équipe, avoir ta gang, là, tu sais. Mais là, comme tu décris tes expériences originales, puis là, tu regardes où est-ce qu'on est maintenant, ça serait quoi, d'après toi, qui sont les plus grandes victoires ou les progrès qu'on a fait en faveur des femmes puis l'égalité dans les genres, dans les sports?
Bien, c'est sûr que le premier qui vient en tête, c'est l'accès. Je reviens à mon exemple de hockey. Puis là, tu sais, je vais voir la victoire à Montréal. Et puis là, c'est comme, my God, tu sais, je pensais pas vivre ça. De mon vivant, vraiment, là, comme en plus en hockey, là, dans mon cas. Et pour moi, c'est sûr que les opportunités maintenant pour les filles, c'est le jour et la nuit, là. C'est là où on a fait des pas de géant. Quand on regarde juste la diversité d'options qu'il y a pour les filles maintenant, c'est fabuleux. C'est sûr que quand on regarde la big picture, tu dis « wow », mais ensuite, ben là, c'est certain, ça dépend. Tu sais, on connaît notre réalité au Canada. Si t'es dans un milieu rural, ben peut-être que les filles, puis peut-être les gars aussi, ils ont comme deux options. Là, l'été, tu joues au baseball, puis l'hiver au hockey. Là. Donc, il y a encore des défis d'un point de vue géographique par rapport à l'accès. Mais clairement, pour moi, ça, c'est une grande avancée. Mon Dieu, que ça a explosé. L'autre chose, c'est sûr, je parlais de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Ben, pour moi, ça aussi, c'est une avancée majeure de vraiment sentir que maintenant, les ligues professionnelles féminines, c'est viable, c'est rentable et ça a tout à fait sa raison d'être. Puis on a assez d'athlètes pour nourrir ces ligues-là. Là, on a la Ligue de soccer qui arrive cet été. Donc, ça, pour moi, ça sert vraiment de locomotive pour moi de à quel point ça va entraîner une génération de petites filles. Puis déjà, en hockey féminin, on le voit déjà, là, c'est astronomique. Là, ils fournissent plus là, de prendre des inscriptions de petites filles. Là. Mm-hmm. Quand je vais au match de la victoire, écoute, de voir toutes ces petites filles-là sur le bord de la bande avec le pancarte. Puis maintenant, leur idole, c'est Marie-Philippe Poulin. Mm-hmm. C'est comme, wow! Je te dis, là, à chaque fois que je vois une game, là, j'ai les frissons puis j'ai la boule. T'sais, au début des games, là, je viens tellement émotive. Ça, pour moi, c'est vraiment dans les avancées parce qu'entre autres, le sport professionnel, ça donne de la visibilité au sport féminin et ça, c'en est une des batailles qui reste à gagner parce que oui. C'est pas très visible. Mais le sport professionnel amène ça. Donc, de sortir le sport féminin de la sphère privée et de l'amener dans la sphère publique pour que tout le monde, en fait, puisse apprécier le sport féminin en dehors des Olympiques. T'sais, oui. Une fois ou deux ans, là, on a une petite bulle olympique, puis après, poup, c'est fini. Oui. Qu'on reste sur notre fin. Là. Mm-hmm. Pour moi, ça, c'est clairement dans les avancées en termes de participation, d'opportunités, d'options. C'est clairement là où on a fait le plus de gains.
Oui, non, non. Je suis assez contente que tu aies amené ces points-là parce que c'est absolument vrai. En anglais, on dit see it, be it. Alors là, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore, il y a des athlètes féminins, mais il y a encore des lacunes quand ça vient aux autres rôles dans le sport, les officiels, les coachs, au conseil d'administration. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là?
Écoute, ça, c'est quasiment comme le mystère de la caramille. Écoute, ça fait 35 ans que je fais de la recherche sur les coachs féminins, puis on est toujours autour de 25 % de coachs féminins. Je pense que les femmes en position de leadership en sport, il y a une résistance du système, puis c'est pas... Puis je veux vraiment être claire dans mes propos. Tu sais, je ne dis pas que les hommes veulent exclure les femmes. Je suis pas dans ce discours-là. Je suis vraiment dans la discrimination systémique. Donc, il y a un système en place qui fait en sorte que des positions de leadership sont à la fois pas nécessairement accueillantes pour les femmes. Donc, le monde du sport, c'est encore majoritairement masculin. Quand tu penses que tout a été conçu et construit par et pour les hommes, puis je dis toujours, si on avait été une gang de femmes, on aurait probablement fait la même chose, c'est par et pour les femmes. Mais donc, ça a été vraiment conçu avec cette vision-là de la masculinité. Et quand les filles sont arrivées puis ont commencé à prendre leur place, donc pas de la place, mais prendre leur place, bien, c'est sûr que ça a dérangé. T'sais, au niveau de la participation, ça a été assez dérangeant et on a senti avec l'arrivée des femmes dans des postes de leadership une espèce de résistance. La culture est en train de changer pour apprécier la contribution des femmes comme étant complémentaire à celle des hommes.
Penses-tu que certains domaines de l'administration du sport avancent plus rapidement que d'autres pour les femmes?
Je te dirais que où ça bouge bien, les conseils d'administration. Quand on arrive au niveau du personnel des fédérations sportives, là, tu vois, on a beaucoup de femmes qui travaillent dans les fédés. Tu sais, comme au Québec, on a 55 % du staff, c'est des femmes. Mais c'est quand on regarde les postes qu'elles occupent, tu ne seras pas surprise de savoir qu'elles sont secrétaires, qu'elles sont aux communications. Alors, les postes de direction générale, direction technique, ce sont majoritairement les hommes qui occupent ces postes-là encore. Il y a quand même des gains, ce qui veut dire que le nombre de femmes dans les fédérations commence quand même à influencer sur la culture, la façon qu'on a de travailler, puis de tenir en compte la voix des femmes. Mais c'est les postes clés sont encore occupés par des hommes, mais ça commence à bouger tranquillement. Mais là où on a vraiment un frein important, c'est en coaching. Et c'est sûr que si on le met dans le contexte, c'est au Canada, là, des jobs de coach payantes, c'est-à-dire que tu peux vivre. Là. Puis là, je ne parle pas de gagner 500 000 par année. Là. Tu sais, je peux-tu juste gagner, mettons, 75 000 par année pour vivre de mon coaching? Au Canada, on n'a pas des tonnes de postes qui permettent. Donc, il y a déjà beaucoup de compétition pour ces postes-là. Et c'est vraiment pas agréable pour plusieurs femmes, surtout quand on arrive au haut niveau. Il y a encore énormément de résistance.
Mais là, tu parles au niveau haute performance, même au niveau communautaire, que moi, je suis coach de ringette au niveau communautaire. Moi, je trouve, quand je vois les femmes athlètes, naturellement, mais des femmes coach, des femmes officielles, ça a le plus pris à ces femmes-là à se rendre où est-ce qu'ils sont. Et puis oui, je suis d'accord, il y a pas grand marge d'erreur. Il faut qu'on soit un peu plus, comme on dit en anglais, forgiving, là, comme qu'on serait avec les hommes.
Et c'est tout un système qui est en place. T'sais, ça passe de l'affichage du poste au recrutement, où est-ce qu'on recrute, qui est sur ton comité de sélection, les questions que tu poses à l'entrevue qui sont biaisées déjà, et puis là, tu arrives en poste. Fait que tu as déjà tout un processus au début où d'emblée, les femmes sont vraiment discriminées puis défavorisées. Tu vois, on regardait dans les entrevues, entre autres, bien souvent, on va recruter des gens pour le comité de sélection qui nous ressemble, et si ça donne que je suis un homme, bien c'est fréquent qu'on va avoir des fois juste des hommes sur des comités de sélection, même si c'est pour engager l'entraîneur de l'équipe féminine. Ça arrive encore aujourd'hui. Les questions qui vont être biaisées, en fait, c'est-à-dire que c'est des questions qui vont permettre vraiment aux hommes à mettre en valeur leurs compétences parce qu'on a encore cette idée d'un type de leadership qui est un bon... C'est quoi un bon coach? Quelles sont les qualités qu'on recherche? Alors, est-ce que dans les questions qu'on pose, on a pris le temps de regarder puis voir est-ce que vraiment on est en train d'exclure des gens sans le vouloir puis de pas leur permettre de se mettre en valeur vraiment. Dans les entrevues, ça, la recherche est vraiment appuie ces éléments-là, c'est qu'on est prêt à miser sur le potentiel des hommes, mais les femmes, il faut qu'elles aient fait leur preuve avant. Les femmes ont des enjeux importants lorsqu'elles veulent accéder à des postes en coaching. Puis c'est sûr que l'étape d'après, c'est de faire tes preuves. Une fois que tu l'as, la job, là, comme on est très peu, on est examiné à la loupe. Tout ce qu'on fait est regardé, est analysé. Vraiment, cette notion de la crédibilité des femmes, là, elle tient à un poil, un fil. Puis les femmes sont très conscientes de ça.
Vous écoutez Intelligence sportive, la perspective canadienne. Je suis votre animatrice, Kim Girtler, et aujourd'hui, nous accueillons Dr. Guylaine Demers, qui mène depuis longtemps des recherches sur la place des femmes dans le sport. On parle maintenant des avancées et les défis qui persistent à ce qu'on peut faire pour que plus de filles et de femmes soient présentes sur le terrain de jeu, derrière le banc et même dans un conseil d'administration. Mais là, une question pour toi au sujet du financement. Parce que comme tu le sais, depuis 2018, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau du gouvernement, comme je pense dans l'ordre de 30 millions de dollars, pour nous aider à tout le monde d'atteindre l'équité dans les genres dans le sport d'ici 2035. C'est-tu réel comme but?
Non. Jamais de la vie. Bien, premièrement, en fait, tu sais, quand on pense à 30 millions, là, ça revient à peu près à 2$ par fille et femme.
Oh, ouais. OK?
Tu sais, si on met ça de même, là. 30 millions, c'est sûr que pour le sport féminin, on est là, wow! C'est vrai que c'était historique, là, quand la ministre Duncan a annoncé ça, c'est fabuleux. Il faut dire qu'il y a eu quand même un bon montant de cet argent-là qui était vraiment plus pour le volet sécurité, protection des athlètes, ce qui est parfait, là. J'ai absolument rien contre ça. Ce qui fait qu'il faut remettre en perspective 30 millions pour arriver à l'équité en 2035. 30 millions, c'est une goutte d'eau. Parce qu'il faut penser, si on veut arriver à l'équité, puis dans ce cas-ci, je dirais égalité, parce que c'est ça qu'on regarde, là, c'est vraiment qu'il y ait autant de garçons que de filles qui fassent du sport, qui soient engagés dans la pratique sportive, bien ça veut dire qu'il faut penser à toutes les filles. Donc, les filles avec un handicap, les filles des minorités culturelles, les filles d'identité de genre différente. Alors, quand tu penses à la diversité du groupe de filles, puis habituellement, les minorités historiquement marginalisées sont moins engagées dans la pratique sportive d'emblée, parce que souvent, il n'y a même pas d'accès. T'sais, c'est même pas accueillant pour ces filles-là. Alors, de penser que d'ici 10 ans, on va avoir mis en place des structures qui vont permettre à toutes ces petites filles-là de se sentir accueillies et bien pour une pratique sportive, c'est complètement utopique. L'autre problème avec le financement, en fait, c'est que ce qui arrive quand on a un montant qui peut sembler énorme et qui, à mon avis, minuscule, ce que ça fait, c'est qu'on finit par saupoudrer un peu partout pour que tout le monde en ait un petit peu. Puis, tu sais, on sait que le Canada, c'est immense. Puis, quand tu penses à tous nos sports, toutes les provinces, toutes les fédés, 30 millions, c'est une goutte d'eau. Et comme c'est peu, puis là, ben, on veut essayer d'aider un peu tout le monde, tu saupoudres un peu partout, puis ce qui fait qu'il y a toutes sortes d'initiatives qui, prises individuellement, peuvent peut-être avoir un petit impact sur un petit groupe de personnes, mais souvent, c'est que ça dure pas dans le temps. Tu sais, si on veut des changements systémiques, il faut que le financement, ça soit pas un one-shot deal, puis dire, hey, wow, on a mis 30 millions. Non. Est-ce que tu peux mettre 10 millions par année pour les 15 prochaines années et que là, il y ait vraiment une direction stratégique sur où est-ce qu'on va investir? On ne peut pas investir partout.
Y a-t-il d'autres pays qui, à ta connaissance, qui font cela avec succès?
Il y a des pays comme l'Australie, là. On se compare souvent à eux autres en termes de grandeur de pays puis de population. T'sais, c'est un peu notre pendant, là. Puis, eux autres, ils ont décidé, bien, regarde, là, il va y avoir 15 sports olympiques. That's it. Puis, mais on met plein d'argent pour le sport de masse, tu comprends, pour que tous nos jeunes puissent faire du sport. Parce que ça, c'est 98 % de nos jeunes, ils sont là, là. Et ça, c'est un choix de société, là. Et puis, je ne suis pas en train de dire, je suis la première à regarder les Olympiques puis à triper et tout. Donc, je ne suis pas en train de dire, tu sais, qu'il faut déshabiller Jean pour habiller Paul, là, la fameuse analogie. Mais c'est qu'à un moment donné, on a des choix de société à faire puis dire, ben, est-ce que c'est encore réaliste de penser qu'on peut subvenir aux exigences financières de sport olympique pour 67 passes? Moi, je pense que non. C'est plate, mais c'est ça. Je ne le crois pas. Mais en contrepartie, je crois que tous les petits gars et toutes les petites filles au Canada devraient pouvoir faire du sport. Puis amenez-en. Let's go. Et c'est tout l'impact sur la santé mentale, santé physique. c'est tout documenté, c'est en recherche. Comment plus on fait de sport, moins on va à l'hôpital, on en sauve en maudit de l'argent. T'sais, pour une pièce mise dans le sport, tu dois en sauver 20 en santé. Là, c'est tout connu, ça. Les politiciens savent, mais ça, c'est des choix que les politiciens, politiciennes n'osent pas faire, hein? Parce que tu n'es pas populaire. T'sais, demain matin, imagine là, qu'il y a un gouvernement qui arrive et qui dit OK, là, on se met un comité de travail, puis on va dire qu'est-ce qu'on fait là? Pour que. Parce que tout coûte plus cher de plus en plus. Là. Ça ne coûtera pas moins cher demain, mais là, t'sais, nos infrastructures qui tombent en ruine. Là. Et il va falloir mettre de l'argent. Là. Ici, on n'a pas le choix, on a besoin d'infrastructures si on veut faire du sport. T'sais, c'est des gros choix. Alors, quand je dis ça, c'est pour ça que je dis oublie ça, l'égalité en 2035, c'est utopique, jamais de la vie. Il aurait fallu qu'ils investissent 30 millions par année dans les 10 dernières années, puis encore, tu sais, c'est ça, là.
Et aussi, comme, puis investir dans l'infrastructure, investir dans les organismes qui mènent le sport au Canada. Oui, les bénéfices, c'est énorme, mais comme c'est là, il y a plusieurs raisons pourquoi ça n'arrive pas. Puis essayer de régler ce problème-là, c'est un problème un peu immense qu'on ne va pas résoudre sur notre podcast aujourd'hui, mais ce sera pour une discussion future.
Oui, oui.
Mais là, j'ai une grande question pour toi, mon ami. Ça fait 35 ans que tu fais ta recherche dans le sport, que tu es impliqué. Qu'est-ce que tu vas faire, là? C'est quoi tes prochaines étapes, tes prochains projets? Puis j'ai l'impression que tu vas pas me dire que tu vas arrêter, tu prends ta retraite, puis tu vas aller sur une plage de quelque part. J'ai l'impression que c'est pas ça tes plans. Alors,
non.
Qu'est-ce que tu envisages faire?
Bien, c'est sûr que au niveau de la recherche, ce qui de permettre à tout le monde de pouvoir faire du sport, c'est complexe parce que, tu sais, comment notre système sportif est, et c'est le bordel, là, tu sais, juridiction provinciale, nationale, tu sais, les municipalités, les clubs privés, les écoles, c'est complexe. Fait que quand on dit comment on peut s'assurer que ça va changer, puis pour moi, le point de départ, c'est toujours les données, c'est toujours la recherche, c'est-à-dire c'est quoi le portrait. Donc, on est en train de faire un projet en ce moment, c'est un projet pilote qui est au Québec, là, mais on est en train de cartographier les inégalités de genre.
Wow.
Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'on a la map du Québec et on regarde dans chacune des régions, et là, on le fait avec 4 sports, dont les 3 plus gros qu'on a au Québec, et on regarde, c'est une carte interactive, où le sport se pratique, donc qui fait du sport où, le nombre de filles et de garçons. Là, supposons que moi, je regarde dans la région de Québec, et là, je suis capable, juste sur une carte, de voir rapidement où est-ce qu'il y a des équipes de baseball, mettons. Où est-ce qu'il y a des équipes de gars, de filles? Il y a combien de gars, de filles qui participent? Donc, déjà, on est capable, puis le ratio par rapport à la population de cette région-là. Tu sais, si on a 40 % de filles, 60 % de gars, mais qu'on voit qu'on a juste 10 % de filles qui font du sport, bien, il y a vraiment un écart dans cette bulle-là. Des fois, les écarts sont moins grands. Ça, c'est d'abord de quantifier, de dire où est-ce qu'on fait du sport, parce qu'entre autres, les réalités régionales font en sorte qu'effectivement, on n'a pas toujours les mêmes options, les mêmes accès, etc. Là, on est en train de voir ça. La carte est vraiment interactive. Tu cliques, puis là, tu vois les bulles, puis c'est hallucinant. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on a cartographié les infrastructures, puis là, on regarde qui utilise les infrastructures. Est-ce que c'est les gars ou les filles? Donc, ça fait partie de la mesure de l'inégalité. L'autre chose, c'est sûr que pour moi, le coaching, là, ça demeure un enjeu. Et là, tu sais, on a travaillé beaucoup avec les femmes. Tu sais, il y a du mentorat, des communautés de pratique, puis on veut les soutenir. Super. Mais là, le système, il y a un problème. Quand on met des quotas, on trouve des femmes. Quand on n'en met pas, on trouve des excuses, là. Mm-hmm. Moi, ça, c'est cette phrase-là, elle m'a marqué vraiment beaucoup. Pascale Navarro, si je me rappelle bien, la journaliste. Donc, je pense qu'on est, les organisations ont trop facilement une excuse de dire « oui, oui, mais j'ai essayé, mais j'en ai pas trouvé, là ». Dans mes projets, et ça, c'est étroitement avec Égal Action, au Québec, on a le privilège d'avoir à la fois une organisation Femmes et Sport et un lab de recherche Femmes et Sport. C'est vraiment unique, puis c'est une belle force. On travaille vraiment ensemble. Donc, c'est de voir est-ce qu'on pourrait pas développer des banques de coachs. Même chose, des banques de femmes en leadership. Comme on fait en politique, en fait, il y a des beaux groupes politiques qu'on a, femmes en politique, entre autres ici, là. Et parce que justement, ils étaient tannés de se faire dire par les partis, on ne trouve pas de femmes. Bien, ils ont dit, bien, gardons ça, on va t'en trouver. Parce qu'il y en a plein de femmes intéressées. Vous ne le savez juste pas, puis vous ne leur demandez pas. Ça, c'est dans les projets qu'on a de dire comment on pourrait mettre vraiment une plateforme en place où les femmes peuvent s'inscrire, puis où les organisations sportives peuvent aller afficher, mais aller recruter aussi. Donc, d'éliminer les excuses, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, puis de mesurer l'impact de ça. Donc, quand on a ces ressources-là, est-ce qu'effectivement, on peut voir un changement? Puis, en lien avec la dernière question, c'est sûr que je rêve d'avoir une subvention de recherche qu'on puisse piloter différents systèmes de compétition. Comment on peut organiser différemment le sport pour que vraiment tout le monde puisse en faire sans égard à qui tu es, point à la ligne. Puis ça, c'est vraiment... Fait que là, on est à l'étape où on est en train de répertorier qu'est-ce qui se fait dans le monde. Les pratiques qui sont porteuses, où ça va bien, où on essaye des choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient assurément. Puis un des aspects dont on n'a pas parlé, justement, quand tu parlais de la participation des filles, oui, les filles ont plus d'opportunités, mais ça reste qu'au Canada, les filles font quand même moins de sport que les garçons. Mm-hmm. Les deux, les gars, les filles en font pas assez. Donc, à travers le temps, et les garçons et les filles font de moins en moins de sport, d'activité physique. Ça, c'est dramatique, je pense, comme société. Mais les filles, c'est toujours un peu plus. Ils sont comme encore moins actifs que les garçons. Et là, on est en attente d'une subvention, mais c'est pour mesurer l'impact de la puberté chez les filles. Mais vraiment regarder par rapport à la pratique sportive, l'impact des menstruations, l'apparition des seins, puis la pilosité. Puis on est encore, tu sais, tu regardes la formation en coaching, là, on n'en parle pas des menstruations, c'est encore, hey, on est en 20-25, là, puis c'est tabou. Là, on a vu que ça a commencé avec la Coupe du monde de soccer en 2019, le soccer féminin, où il a commencé à avoir des articles scientifiques qui sont sortis avec l'équipe américaine, où ils ont vraiment fait leur planification de l'entraînement en tenant compte du cycle menstruel de toutes les athlètes. Puis de voir comment il y a un impact. Là, on commence à avoir de la recherche, mais là, c'est vraiment avec les athlètes de très haut niveau, où là, on fait vraiment le lien et on tient en compte le cycle menstruel par rapport au calendrier d'entraînement, la planification de l'entraînement. Mais ça, c'est super. Mais moi, je m'intéresse à la petite fille de 12 ans qui est nageuse, qui commence à être menstruée, là, puis qu'elle lâche le sport, là. Pourquoi elle lâche le sport? C'est quoi l'impact de ses menstruations? La formation de nos entraîneurs, ils en parlent-tu de ça? Parce que oui, ça a un impact. Les hormones, ça joue sur ton humeur, sur ton niveau d'énergie. Mais on veut vraiment documenter l'impact de la puberté chez les filles par rapport à leur pratique sportive. Puis après ça, de pouvoir effectivement, aider les filles à comprendre. Parce que ça aussi, là, il n'y a pas de formation pour les filles. Mm-hmm. Leur puberté puis leur pratique sportive, là. Mais ça, il y a un vide là-dedans. Si on veut vraiment pousser pour aider les filles, les instruire là-dessus, les coachs et les éducateurs et éducatrices physiques.
OK, ça, c'est pas comme si tu vas t'asseoir puis tu vas rien faire, là. Mais c'est tous tes projets super excitants. Puis comme tu le sais, on va être bien excités à te suivre dans tes aventures de recherche. Tout ça pour dire, Guylaine, merci, merci, merci beaucoup pour notre conversation. Tu en as partagé beaucoup de tes expériences, de tes projets de recherche, de tes connaissances, puis j'apprécie beaucoup notre temps ensemble. Ton leadership et puis ton travail de revendication ont changé la donne pour les filles et les femmes dans le sport, pas juste au Québec, mais au Canada. Alors, merci, Guylaine. Voilà un autre épisode d'Intelligence sportive, la perspective canadienne. Si vous voulez en savoir plus sur Dr. Demers, vous pouvez écouter son balado « Jouer comme une fille » où elle explore encore plus en profondeur la place des femmes dans le sport. Et si vous avez des questions ou des commentaires pour le Cirque, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux à Cirque Canada sur Instagram ou à Cirque Tweets sur X. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et rester au courant des grandes tendances et enjeux du sport au Canada. Merci d'avoir écouté et à bientôt!